There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city. Proudly student and listener-supported community radio.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Pourquoi Chaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre. Pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot Pourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Francophonie et diversité. Popourri Show enquête.
Pourquoi des élèves issus de plus de 30 familles noires auraient été placés dans un programme de soutien linguistique à Ottawa sans le consentement de leurs parents? C'est ce qu'a rapporté The Globe and Mail dans un article publié jeudi 24 mars. Les familles ne l'auraient appris que 2 mois après la rentrée scolaire, lors de la remise du premier bulletin, selon Charlene Grant, responsable du plaidoyer chez Parents of Black Children, l'une des nombreuses organisations à défendre les familles. Et oui, certains Québécois, franco-ontariens, auditeurs et même des anciens fonctionnaires du gouvernement de l'Ontario sont choqués, en colère. À vous la parole. Que pensez-vous de l'approche de cette école du Conseil scolaire public francophone à Ottawa? Écrivez-nous en toute confidentialité à popourri@cut.fm. Popourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto, témoin privilégié de la francophonie depuis plus de 35 ans au Canada et dans le monde.
Événement.
France 24 vous fait vivre l'élection présidentielle française. Cette année, le président Macron sera-t-il réélu pour 5 ans ou sera-t-il battu par l'un des candidats déterminés à le faire tomber? France 24 couvre la campagne électorale et va à la rencontre des Français, des candidats et de leur soutien. Suivez l'élection présidentielle française tous les jours sur France 24 et France24.com.
Dimanche 24 avril 2022. Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine de la francophonie sur CUT 89,5 FM Toronto. Et oui, vous êtes bien branchés sur la radio de l'Université de Toronto, l'ingénieur du son DJ Dovera, production animation Eric Kader avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Et nous sommes très heureux d'être de retour. Pour écouter nos émissions, que vous soyez sur la planète, une seule adresse, popourrichaud.com. Et merci à ceux et celles qui nous ont suivis sur Facebook lors de nos escapades dans les Antilles. Et bienvenue aux nouveaux membres de Montréal, du continent africain, de l'Europe, un peu partout, Canada. Et je vous invite à suivre les podcasts du CREFO sur quoideneuf.ca, notre partenaire. Et notre information importante de Sophie Franc, notre partenaire communautaire, camp d'été multi-art du 18 juillet au 29 juillet, de 8h à 17h30. Une bouffée d'oxygène pour les enfants de 6 à 13 ans. Ce camp d'été multi-art sera animé par l'éducatrice artistique très connue dans le monde artistique en Ontario, Justine Gaugois, avec plusieurs activités, notamment l'apprentissage d'instruments de musique, l'écriture, la peinture, la danse, le conte, etc. Hâtez-vous, les places sont limitées. Pour plus d'informations, 905-714-7333 ou le 905-226-5282. Vous retrouverez tous les détails sur popourrichaud.com. Avec le concours de ses bénévoles, Sophie Franc planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Et Jocelyne Gaugois sera bientôt à nos micros. Les journées belges à Toronto du 25 au 27 avril à ne pas rater. Ciné Franco a le plaisir de co-présenter Paris Pieds Nus, un film, une comédie hilarante de Dominique Abel et Fiona Gordon au théâtre Spadina, 24 Spadina à Toronto. L'Alliance française, pour plus de renseignements sur le film et les billets gratuits, contactez l'Alliance française de Toronto ou visitez tout simplement le site cinéfranco.com. Et oui, aussi au menu, France présidentielle 2022. Selon vous, qui a été le gagnant ou la gagnante du grand débat de mercredi dernier? Quel enjeu pour les électeurs au second tour? Et si Marine Le Pen est élue, ce sera la faute de qui? France 24 vous donne rendez-vous cet après-midi, donc dans quelques heures. Dispositif exceptionnel pour être informé en direct, décryptage, analyse, réaction et reportage dans les plus grandes villes de France. Et si on mettait fin des deux peuples fondateurs? Une lettre ouverte d'Arjun Singh, professeur de l'Université de Toronto, a fait bondir Richard Martineau, journaliste au Journal de Montréal. Pour Arjun Singh, non seulement faut-il mettre fin du concept des deux peuples fondateurs, un mythe qui, selon lui, est déconnecté de la nouvelle réalité au Canada et oblige les Canadiens à se montrer tolérants avec une province qui a adopté une loi aussi répressive que la loi 21. Mais il faut que le Canada embrasse une idée pluraliste où les gens seront traités comme des individus et non des membres d'une communauté linguistique. Sinon, dit-il, le Canada sera condamné à demeurer un État néocolonialiste. Vous pouvez retrouver cette lettre ouverte dans le journal de Toronto Sun ou sur notre site popourichaud.com. L'université Laurentienne à Sudbury en Ontario, et oui, un an après les coupes, la plaie est toujours vive. Depuis le dépôt du rapport préliminaire de la vérificatrice générale de l'Ontario sur la crise financière de l'Université Laurentienne, des voix s'élèvent pour réclamer le départ du recteur et président Robert Haché et des cadres supérieurs de l'établissement. Les autres membres visés une pétition étaient Marie-Josée Berger, vice-rectrice aux études, Serge Demers, secrétaire général et du Sénat, Lorella Hayes, vice-rectrice à l'administration et Claude Lacroix, l'ancien président du Conseil des gouverneurs. La crise à l'université Laurentienne suscite le débat chez les francophones de l'Ontario, y compris chez les auditeurs qui accusent certains organismes francophones de manque de transparence. Qui gagne, qui perd si Marine Le Pen est élue des élections très suivies en Afrique? Marine Le Pen offrira moins de visas et moins d'aide au continent africain. En effet, la candidate d'extrême droite ne définit pas une politique africaine à proprement parler. Seules quelques grandes lignes de la relation avec le continent sont affirmées. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara nomme vice-président. Cameroun-Russie vers un rapprochement militaire entre Yaoundé et Moscou. Le ministre chargé de la Défense, Joseph Abeti Assomo, a effectué une discrète mais remarquée visite à Moscou ces derniers jours pour signer un nouvel accord de coopération militaire entre les deux pays. Un déplacement symbolique alors que le Kremlin a relancé son offensive en Ukraine. Les sanctions infligées au Mali font aussi mal au Sénégal, peut-on lire dans le journal Jeune Afrique de cette semaine. Toujours dans le journal Jeune Afrique, sexualité, parentalité, liberté, les combattantes de la révolution féministe africaine. Et oui, sur le continent comme dans la diaspora, de plus en plus de femmes noires se livrent dans la sphère publique sur leur vie sexuelle. Est-ce une révolution? Un article à lire dans le magazine Jeune Afrique. À l'île Maurice, augmentation du prix de l'essence. Les stations-service prises d'assaut cette semaine. Toujours à l'île Maurice, un projet de 90 villas sur les Wetlands suscite la contestation. Stop! Arrêtez de remplacer la nature par du béton sur des zones à risque pour l'environnement. Tout cela pour gagner de l'argent au détriment de la nature, de la faune, de la flore et des habitants de la région. Triste et dramatique, écrit notre ami et correspondant Percy Iptong à l'île Maurice et Marie-Monique à Perth en Australie. Et puis menace contre Pierre Espérance, appel urgent aux autorités d'Haïti par l'Observatoire international pour la protection des défenseurs des droits humains. Grave incendie au marché public de Baudouin-Jacmel. Cette semaine, marchands, riverains ont assisté impuissants à la propagation du sinistre qui a causé d'énormes dégâts. On en fait le point dans les journaux d'Amérique, Haïti et des Outre-mer vers 12h10. Pour tout de suite, le magazine L'Accent des Autres de Radio France Internationale, de la présidentielle en France à la RDC, tour d'actualité des médias francophones.
Bienvenue dans L'Accent des Autres, l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics. C'est comme chaque semaine avec la Radio-Télévision Suisse, RFI, Radio-Canada, la RTBF et France Inter. Et on va d'abord évoquer aujourd'hui l'entre-deux-tours en France, la campagne de l'entre-deux-tours de la présidentielle qui bat son plein. Elle oppose, comme il y a 5 ans, le président sortant Emmanuel Macron à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen. Une affiche inacceptable pour de plus en plus d'étudiants français, Karine Bécard.
Oui, plusieurs blocages d'écoles ou d'universités ont été votés cette semaine. C'est le cas à la Sorbonne à Paris, par exemple, à l'ENS aussi, l'école normale supérieure, ou encore à Sciences Po Nancy, des jeunes qui refusent de choisir entre une candidate facho et un candidat pas assez écolo.
Au Canada, à présent, Benoît Audet, un pas supplémentaire vient d'être fait dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les autorités annoncent de nouvelles aides.
Oui, Ottawa a annoncé le déploiement d'une centaine de soldats en Pologne pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens.
Sur le continent africain, nous irons en République démocratique du Congo avec vous, Nicolas Sûr. D'anciens chefs de guerre, retenus en otage depuis 2 mois par un groupe armé, ont été libérés.
Oui, il s'agit de Thomas Lubanga et Floribert Njabou qui avaient été envoyés dans la province de l'Ituri pour négocier avec cette milice.
Il va être question du droit pénal sexuel en Suisse avec vous, Pierre Anchoffat. La question du consentement dans la définition du viol divise le Parlement helvétique.
Non, c'est non, ou seul un oui est un oui. Deux variantes pour définir l'infraction de viol. Il en résulte un poids différent sur les épaules de la victime.
Enfin, nous nous quitterons au sein de l'univers carcéral en Belgique. Sophie Brems, on a reparlé cette semaine de l'état des prisons et notamment de la qualité des soins médicaux en prison.
Oui, après la mort d'un détenu fin de l'année dernière à la prison de Nivelles, c'est en Wallonie, l'Observatoire international des prisons s'interroge et dénonce l'absence de réponse des autorités.
Voilà donc pour le sommaire de cette semaine. Bienvenue à vous dans l'Accent des autres. L'affiche Macron-Le Pen de ce deuxième tour de la présidentielle en France met donc en colère une partie de la jeunesse avec un mouvement qui a pris forme au sein de certains lycées, de certaines universités. Plusieurs sites sont perturbés ou ont été perturbés par des jeunes qui n'ont pas envie de choisir entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national. Deux candidats qui ne leur correspondent pas. C'est un reportage réalisé mercredi dernier à la Sorbonne par Agathe Mahuet.
Des conserves, des bananes livrées par la fenêtre.
Pour le goûter.
Car toutes les portes de l'université sont bloquées depuis l'après-midi. 500 étudiants ont voté l'occupation en colère face au duel Macron-Le Pen.
La radicalité néolibérale ou la radicalité fasciste, faut choisir. Et c'est horrible.
Julien soutient donc le mouvement qui émerge, mais d'autres râlent un peu contre la méthode à quelques jours des partiels. Leur fac évacuée, il a fallu faire cours d'anglais tout à l'heure dans un bistrot.
Du coup, on a plus discuté et bu un petit café.
Allez,
soudain, une porte s'ouvre, enfin. Dans l'amphi plein à craquer, les assemblées générales s'enchaînent. L'annulation des cours est décidée au moins jusqu'à lundi, le fait de dormir sur place aussi. Et au cœur du mouvement, cette question, comment se positionner quand on a 20 ans et qu'on a voté Mélenchon au premier tour?
Faire barrage à Le Pen, quoi, en gros. Ou ne pas du tout voter. Et donc ça, c'est aussi la grande question qui est en train de se formuler ici.
En attendant, le dîner s'organise.
C'est le distributeur qui a été tournevissé.
Voilà, on a ouvert le distributeur, on donne à tout le monde, partagé.
Certains rêvent d'occuper la fac jusqu'au 24 avril. De son côté, la Sorbonne annonce, vu les événements, qu'elle restera fermée ce jeudi et jusqu'à nouvel ordre.
Un reportage donc réalisé mercredi dernier par France Inter à la Sorbonne. Après une journée d'occupation, les étudiants qui occupaient la Sorbonne ont finalement quitté l'université jeudi soir, mais les collectifs à l'origine des blocages appellent à des manifestations. Des soldats canadiens envoyés en Pologne après avoir annoncé une aide militaire à l'Ukraine, après avoir appuyé une série de sanctions à l'encontre de la Russie. Le Canada annonce donc cette semaine l'envoi de soldats aux frontières de l'OTAN. Leur mission, donner un coup de main aux réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays. Benoît, que vont faire plus concrètement ces soldats canadiens?
Ils vont travailler dans des centres d'accueil de réfugiés en Pologne. Ils vont entre autres aider les gens qui apportent des soins aux réfugiés. Ils vont aussi venir en aide aux soldats polonais qui ont mis sur pied une force opérationnelle d'aide humanitaire.
Oui, les soldats canadiens vont aussi participer aux efforts d'immigration des Ukrainiens au Canada.
Le Canada a déjà commencé à recevoir des réfugiés ukrainiens sur son territoire. Ottawa a instauré un programme qui donne accès à ces réfugiés à un processus accéléré pour venir s'établir au Canada pendant 2 ans. Jusqu'à maintenant, Ottawa dit avoir reçu 110 000 demandes d'immigration de la part de réfugiés ukrainiens. De ce nombre, 30 000 ont été acceptées.
Et ce nouvel engagement du Canada est le dernier d'une série d'annonces depuis le début de la guerre en Ukraine, Benoît.
Oui, dans le budget fédéral déposé la semaine dernière, Ottawa s'était engagé à verser une aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine. Le gouvernement fédéral avait déjà annoncé un montant de 110 millions de dollars pour équiper les forces armées ukrainiennes en armes létales et non létales. Le Canada s'est résolument rangé derrière l'Ukraine depuis le début du conflit. Au cours des dernières années, le Canada avait aussi participé à la formation de soldats ukrainiens après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.
Oui, et à propos de l'Ukraine, on notera que la Suisse vient de durcir ses sanctions contre la Russie, Pierron.
Oui, le gouvernement a en fait repris le cinquième paquet de sanctions européennes. Interdiction d'importer de Russie du charbon, du ciment ou encore de la vodka. Interdiction d'exporter du kérosène et divers produits chimiques susceptibles de renforcer les capacités industrielles de la Russie. Une attitude ferme alors que le ministère russe des Affaires étrangères venait de critiquer le gouvernement suisse par ces mots. Nous espérons que pour vous, l'inviolabilité de la neutralité ne se limite pas à de belles paroles. Fin de citation.
Ils étaient détenus depuis 2 mois par la milice Codeco qui sème la terreur dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 2 émissaires envoyés par le président congolais Tshisekedi et 2 officiers de l'armée ont retrouvé la liberté cette semaine, Nicolas.
Oui, des négociations étaient en cours, mais selon une source qui a tenu à garder l'anonymat, les 4 otages sont parvenus à fausser compagnie à leurs ravisseurs. Ils ont été retrouvés dans la brousse après plusieurs kilomètres de marche à pied. Tous faisaient partie d'une délégation envoyée en Ituri par le président de la République pour négocier un cessez-le-feu avec la Codeco, un groupe armé empreint de mysticisme qui sème la terreur dans cette province de l'extrême nord-est du Congo, proche de la frontière avec l'Ouganda et placée sous état d'urgence. Début février, les 8 membres de cette mission avaient été pris en otage pendant des pourparlers, car les miliciens reprochaient à l'armée d'avoir bombardé la zone durant la réunion.
Et plusieurs des ex-otages sont eux-mêmes d'anciens chefs de guerre.
Oui, des chefs de milice qui connaissent très bien l'Ituri et pour cause, ils s'y sont livrés à des combats meurtriers au début des années 2000 alors que la province était déjà à feu et à sang. Germain Katanga, libéré il y a déjà quelques semaines, Floribert Djabou et surtout Thomas Lubanga, connu pour avoir été le premier condamné de la Cour pénale internationale. Il avait été reconnu coupable de recrutement d'enfants soldats. On ne sait pas encore, après cette prise d'otage, si leur médiation pourra reprendre.
Nicolas Sûr pour RFI.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
En Suisse, on discute de la réforme du droit pénal sexuel. La définition du viol est en débat, Pierron, et cette semaine, le gouvernement a salué l'abandon de la notion de contrainte.
Il faut dire que notre droit pénal a une vision restrictive du viol. Seule la pénétration vaginale non consentie d'une femme par un homme est reconnue. Même si la jurisprudence du tribunal fédéral a admis dans certains cas un état de sidération pour expliquer l'absence de réaction de la victime, le code pénal postule encore sa résistance et donc la contrainte physique de l'agresseur.
Ce projet, il élargit la définition du viol et réduit la pression qui pèse sur les épaules de la victime.
Exactement. D'abord, le viol d'un homme sera reconnu. Ensuite, on effacera la notion de contrainte et le code définira une gradation dans les infractions. Le viol sous contrainte et le viol avec cruauté. Ce dernier serait puni d'au moins 3 ans de prison jusqu'à un maximum de 20 ans.
Voilà pour ce qui semble donc acquis. Reste, Pierron, la notion de consentement qui fait débat.
La majorité parlementaire et le gouvernement veulent s'en tenir au refus de la victime. Non, c'est non, alors qu'une minorité plaide pour le consentement explicite. Seul un oui est un oui. L'écologiste Céline Vara explique pourquoi, avec l'exemple d'une jeune femme qui n'a pas su dire non.
Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Mais tu aurais dû lui dire non. Pourquoi tu lui as pas dit non? Et paf, toute la responsabilité sur ses épaules. Alors que si on va avec la solution du oui, c'est oui, eh bien, on change totalement de discours. La question, ce sera, est-ce qu'il t'a posé la question? Si tu voulais cet acte sexuel. Donc, on voit bien là vraiment que la pression, elle repose vraiment sur les épaules du prévenu, si on veut bien, de la personne qui a imposé l'acte sexuel.
Le libéral radical Philippe Bauer craint précisément ce renversement du fardeau de la preuve.
On est là pour s'occuper d'un certain nombre de personnes qui se prétendent victimes d'un viol et on est là pour s'occuper d'un certain nombre de personnes qui sont prévenues d'un viol. Et ces personnes-là, on doit leur assurer une sécurité juridique et pas simplement se contenter de propos lénifiants, de « oui, c'est oui », alors qu'on sera confronté exactement au même problème. Est-ce que vous souhaitiez cet acte à caractère sexuel ou est-ce que vous le refusiez ?
Selon un sondage commandé cette semaine par la section suisse d'Amnesty International, la majorité défend ce « oui, c'est oui » pour mieux protéger les victimes. Le Parlement, lui, tranchera en juin.
Et en attendant, en Belgique, Sophie, le Parlement a déjà tranché. La réforme du droit pénal sexuel est sur les rails.
Oui, cette réforme a été votée à la Chambre le mois dernier. Et là aussi, la notion de consentement est centrale. Le consentement n'est jamais présumé et il peut être retiré à tout moment. On notera aussi que la Belgique a décriminalisé la prostitution. Les professionnels du sexe sont aujourd'hui considérés comme des travailleuses et des travailleurs comme les autres.
On va rester en Belgique pour se quitter avec vous, Sophie, parce que l'état des prisons est une nouvelle fois pointé du doigt. Ces prisons sont dans un état déplorable à tous les niveaux. Bien sûr, ça n'est pas neuf, mais le débat est revenu sur la table après le décès d'un détenu à Nivelles, en région wallonne.
Un décès qui remonte à la fin de l'année dernière et qui pose la question de l'accompagnement médical dans les prisons. Ce détenu serait resté sans soins pendant une nuit, malgré des appels à l'aide de son co-détenu. Un médecin légiste a finalement conclu à une mort naturelle, mais manifestement, le cadre médical est insuffisant dans les prisons belges. En tout cas, par moment, ça a été le cas à la prison de Mons. Son directeur explique qu'il a été confronté à un manque de médecins.
Aujourd'hui, il y en a assez, mais pendant plusieurs semaines, trois mois, pendant deux ou trois jours par semaine, il n'y avait pas de médecin. Or, la loi implique qu'il y ait un médecin une fois par jour dans la prison.
Mais donc ça, c'est un problème.
Mais évidemment que c'est un problème. Mais il a été résolu aussi. J'ai appelé à l'aide, j'ai dit à l'administration, attention, voilà où on en est. Ils ont tenté de trouver des médecins. Il a fallu du temps, mais on l'a trouvé. Oui, il peut y avoir des manques au niveau des soins de santé.
Voilà, manque au niveau des soins de santé, ça a été dénoncé par l'Observatoire international des prisons. Et puis, manque aussi plus largement dans les prisons belges, Sophie.
Oui, et ça fait des années que le constat est le même. Surpopulation, manque de personnel, manque de moyens, vétusté, voire carrément insalubrité. Les conditions de détention sont déplorables partout. Les détenus sont bien trop nombreux et même si de nouvelles prisons sont en construction, c'est toujours trop tard, comme l'explique encore le directeur de la prison de Mons.
En 2017, j'ai participé à un colloque où on m'a fait annoncer environ 1000 places pour 2022. Il n'y en a pas une qui est ouverte. Donc on sait que les délais sont toujours beaucoup trop longs.
Des délais trop longs qui n'empêchent pas la Belgique de s'interroger sur la place et le sens de la prison, sur les alternatives également à l'incarcération.
Merci Sophie Brems pour la RTBF et merci à tous ceux qui ont participé à l'Accent des Autres, comme chaque semaine, les partenaires des médias francophones publics que sont Radio-Canada, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Je vous fixe rendez-vous si vous le souhaitez pour un nouvel Accent des Autres la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
TV5Monde.com, c'est tout TV5Monde et bien plus encore.
Retrouvez le guide des programmes traduits en 5 langues.
Découvrez les bandes annonces de vos films.
Visionnez où vous voulez et quand vous voulez vos émissions favorites.
Restez connectés à l'information avec toute l'actualité internationale en direct, nos JT et dossiers multimédia.
Voyagez avec un site 100% Afrique.
Visitez toutes les cultures du monde.
Consultez la météo.
Interrogez notre dictionnaire.
Vibrez sur toutes les musiques du monde.
Apprenez et enseignez la langue française.
Jouez et gagnez des cadeaux avec nos quiz et nos concours.
Voyagez, découvrez, partagez. Tous les mondes se rejoignent sur tv5monde.com.
On compte les heures à tous les jours. On tape du pied haut comme un tambour. Plus on atteint, plus on devient fou. Dans quelques heures, ça se passera chez nous. So prends un Uber et come on over. Au tap des mains et flippe tes cheveux. Un vodka soda, un sac qui bande. La fête commence dès que la nuit tombe. Que tu sois beau.
Sur le wall, c'est qui le coolest of them all? Mirror, mirror, sur
sur le wall, c'est qui coolest of them all? Mirror, mirror sur le wall, c'est moi coolest of them all. Que tu sois beau ou laid, partout sur la planète, ce soir on perd la tête. Y'a rien qui nous arrête, oh, on va faire la fête, ce soir on perd la tête. Que tu sois beau ou laid, partout sur la planète, ce soir on perd la tête. Y'a rien qui nous arrête, oh, on va faire la fête, ce soir on perd la tête.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festival Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Au Pourri Chaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Un peu rapide.
Je saurai me faire lent quand le moment sera venu.
Devant vos charmes, je l'avoue, ma raison pourrait vaciller.
Qui êtes-vous ?
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, acteur.
Votre texte a réveillé en moi les émotions que je croyais éteintes à jamais.
Partez avec moi.
Mais c'est impossible, voyons.
Rien n'est impossible.
Bien, monsieur !
Vous baisez ma fille ? C'est un métier du sentir et non du paraître.
Monsieur Molière.
Le plus important, c'est de pouvoir vivre de votre art. Oh. Jouer des comédies qui explorent l'âme humaine.
Ce genre de comédie n'existe pas.
Eh bien, inventez-le.
Cachez donc ce sein que nous ne saurions voir. Je dois écrire mes propres pièces, voilà tout. J'ai besoin de faire entendre ma voix.
« 2022 est l'année de Molière, l'un des plus célèbres dramaturges français. Il est aujourd'hui l'auteur français le plus joué dans le monde. Pourquoi parle-t-on encore de lui 4 siècles plus tard ? Quand et comment son œuvre est-elle arrivée en Afrique ? Molière l'Africain, est-ce possible ? Des éléments de réponse avec nos correspondants et comédiens en Europe et en Afrique tout au long de l'année 2022, alors soyez-y. Popourri Chaud, 35 ans déjà, on est toujours bien ensemble.
Quoi de neuf ? Les Cafés du Créfou. En partenariat avec Popourri Chaud et CUT 89,5 FM.
Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde ? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité ? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à des cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Duisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
CIUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité.
Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises.
Événements.
France 24 vous fait vivre l'élection présidentielle française. Cette année, le président Macron sera-t-il réélu pour 5 ans ou sera-t-il battu par l'un des candidats déterminés à le faire tomber ? France 24 couvre la campagne électorale et va à la rencontre des Français, des candidats et de leur soutien. Suivez l'élection présidentielle française tous les jours sur France 24 et France24.com.
Présidentielle 2022 en France. Quel enjeu pour les électeurs au second tour ? Eh oui, les électeurs français sont attendus dans les bureaux ce dimanche 24 avril pour le second tour de la présidentielle. Un duel qui oppose, comme en 2017, le président sortant Emmanuel Macron et la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen. Je vous rappelle que pour le premier tour, les Français de l'Ontario ont voté majoritairement Macron. Jean-Luc Mélenchon en tête dans les Outre-mer. Mais qu'est-ce qui a changé en l'espace de 5 ans ? Quel enjeu pour les électeurs pour ce deuxième tour ? Toutes les réponses avec Valérie Gasse et Arnaud Benetti. Et si nous avons un peu de temps, je vous partagerai le message à coup de gueule de notre confrère Claude Siard, producteur et animateur de Couleur Tropicale sur RFI. Allez, place à France 24.
Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la une spéciale que nous consacrons au deuxième tour de l'élection présidentielle en France et aussi à cette campagne donc qui continue. 27,85% des suffrages pour le président sortant Emmanuel Macron et 23,15% des suffrages pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National. Ce sont les scores des deux candidats qualifiés au deuxième tour de la présidentielle en France, tels que validés par le Conseil constitutionnel. Au total, ce sont donc près de 36 millions de Français qui se sont rendus aux urnes le 10 avril, soit un taux d'abstention de 26,31%. Les électeurs sont invités à nouveau le 24 avril à choisir parmi ces deux candidats celui ou celle qui deviendra leur président ou présidente pour les 5 prochaines années. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc pour discuter tout au long de cette émission Arnaud Benedetti, éditorialiste, rédacteur en chef de la revue politique parlementaire, auteur de « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir » aux éditions du CERF. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et en face de vous Valérie Gasse qui est notre chef de service politique à RFI. Bonjour Valérie.
Bonjour Aziza.
Merci à vous deux d'être avec nous et je commence tout d'abord avec vous Valérie. Alors l'extrême droite enregistre aujourd'hui des scores records lors de ce premier tour. Beaucoup plus que 2017. Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan totalisent 32,25% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, on a un électeur sur trois qui vote pour l'extrême droite en France.
Oui, on peut presque dire que sur ce plan-là aussi, on a changé de monde hein, en politique avec ce scrutin. Alors, cette progression, elle avait déjà été engagée hein, dans les différents scrutins précédents. Mais c'est vrai que là, avec un électeur sur trois, le tiers des électeurs qui se reportent sur les candidats qui représentaient ces idées, on est un cran au-dessus de la dernière fois. Hein. La dernière fois, on avait Marine Le Pen plus Nicolas Dupont-Aignan qui faisait 26% des voix. C'était déjà beaucoup. Mais c'était quand même nettement moins que cette fois-ci. On peut constater qu'en fait, l'opération que Marine Le Pen a engagée il y a quelques années de dédiabolisation porte ses fruits. D'autant que dans cette campagne, elle est passée de la dédiabolisation à la normalisation. Et en se donnant une image beaucoup plus lisse, beaucoup moins provocatrice. Et ça a relativement bien fonctionné, d'autant que cette campagne de 2022 a été marquée par l'émergence de qui ? D'Éric Zemmour, qui lui a endossé ce costume un petit peu de candidat radical, provocateur justement, focalisé sur l'immigration, qui a permis presque à Marine Le Pen de se recentrer. Et donc le cumul des voix de tout ça, ça donne le résultat qu'on a eu. Il ne faut pas oublier aussi que dans ce vote pour Marine Le Pen, il y a aussi une espèce de vote de colère. Il y a du vote d'adhésion pour le Rassemblement National, pour Marine Le Pen, maintenant, ça existe. Mais il y a aussi une part des Français qui se sont sentis laissés pour compte. Il y a eu beaucoup de crises, celle des Gilets jaunes notamment. Eh bien, ces Français, quand ils mettent un bulletin dans l'urne pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour, c'est aussi une manière de dire qu'ils se sont sentis un peu exclus et laissés pour compte, qu'ils sont en colère.
Alors, Arnaud Benedetti, vous dites de votre côté que Marine Le Pen aujourd'hui va peut-être challenger plus sévèrement qu'en 2017 Emmanuel Macron. Alors, on le sait, il y a cette réserve de voix, en tout cas c'est 32%, mais pas que. Vous parlez aujourd'hui de réserve de voix et vous dites que c'est quelque chose d'assez aléatoire.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les conditions, si vous voulez, du duel ou du match retour, pour prendre la terminologie footballistique de 2022, ne sont pas celles de 2017. L'écart de voix est certes plus important, paradoxalement, pour Emmanuel Macron en 2022 qu'il ne l'était en 2017, mais la réalité, c'est que, pour la première fois, la candidate du Rassemblement National dispose d'une réserve de voix ou d'un niveau de réserve de voix qui est très nettement supérieur à celui de 2017. Je ne prendrai que l'exemple qui a été cité, celui de l'offre politique d'Éric Zemmour, qui, avec déjà 7%, permet à Marine Le Pen de pouvoir avoir une marge de progression beaucoup plus importante que celle qu'elle avait en 2017. Et puis, il y a plusieurs inconnus, si vous voulez. Il y a l'inconnu quand même du vote Mélenchon, dont on sait très bien que c'est un vote qui est profondément anti-macroniste et qui peut, en partie, je dis bien en partie, se reporter éventuellement, même si c'est peut-être marginal, sur la candidature de Marine Le Pen. Il y a que feront, par exemple, les électeurs de Valérie Pécresse. On sait qu'il y a une partie de ces électeurs plutôt majoritaires qui vont se porter vers Emmanuel Macron, mais il reste quand même une partie de ces électeurs aussi qui vont vraisemblablement se porter vers Marine Le Pen. Donc, elle dispose encore une fois d'un réservoir qu'elle n'avait pas en 2022, qu'elle n'avait pas en 2017. Il y a un autre aspect. Vous l'avez très bien dit. C'est vrai que Marine Le Pen s'est considérablement recentrée par une sorte d'effet d'optique qui est lié à la candidature d'Éric Zemmour, qui a récupéré un certain nombre des thématiques les plus, j'allais dire, dures de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a pas eu besoin de faire campagne parce qu'elle avait quelque part un candidat qui, à sa droite, imposait cet agenda politique dans le débat politique, et d'autant plus qu'elle n'avait pas besoin de faire campagne sur ces thématiques-là parce qu'elle avait l'antériorité historique liée à l'histoire du Rassemblement National versus Front National. Mais par contre, là où elle était particulièrement habile, au-delà du recentrage qui a été le sien, c'est qu'elle a, dès le mois d'octobre, réussi à anticiper, finalement, l'enjeu qui serait l'enjeu majeur de cette campagne présidentielle, qui est la question du pouvoir d'achat. Et en plus, avec la question de l'inflation qui est boostée aujourd'hui par la guerre en Ukraine, elle a eu, là, de ce point de vue-là, une valeur ajoutée pour elle qui est non négligeable.
Alors, justement, en parlant du pouvoir d'achat, Valérie, des programmes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces programmes ont évolué dans l'entre-deux-tours, justement pour aller draguer un peu plus à gauche, un peu plus à droite ?
Alors, oui, les programmes ont évolué. Enfin, c'est surtout celui d'Emmanuel Macron qui évolue. Parce que depuis le premier tour, il a quasiment théorisé le fait qu'il était le candidat à l'écoute, le candidat capable d'aller agréger des propositions des uns et des autres. Dès avant le premier tour, il avait un petit peu anticipé en parlant de la planification écologique qui fait partie du programme de Jean-Luc Mélenchon, qui pour lui était possible à intégrer dans son programme. Et puis on l'a vu, dès le lundi qui a succédé au premier tour, il a été faire lâcher du lest sur la réforme phare de son programme, celle des retraites. Avant le premier tour, il a dit il faut mettre l'âge légal à 65 ans. Dès le lundi, il a dit finalement, 64 ans, ça pourrait passer aussi. Et Emmanuel Macron est dans une opération de drague des électeurs de gauche. Il a été élu avec 27% des voix. Et en effet, c'est plutôt un socle qui va vers le centre droit. Là, il lui faut, pour le second tour, aller ramener un petit peu d'électeurs de gauche vers lui. C'est ce qu'il tente de faire. Alors, on attend peut-être encore d'autres évolutions sur l'écologie, justement. Hier, il était en déplacement au Havre avec Édouard Philippe. Il devait parler d'écologie. Il en a parlé. mais il a pas fait la petite annonce de plus qui pouvait séduire les électeurs écologistes. Il s'est contenté de dire oui, mais un électeur écologiste, il faut qu'il vote pour moi parce que s'il vote pour Marine Le Pen, c'est une catastrophe. Elle veut pas d'éolienne, elle veut rien. Donc voilà, il est un petit peu dans cet entre-deux parce qu'on lui a aussi reproché de faire ses avancées vers un autre électorat, quitte à être un peu moins cohérent avec ce qu'il avait annoncé avant. C'est une question en effet qui va se poser dans un gros chambardement des grandes manœuvres à gauche pour tenter de peser dans le quinquennat qui va venir.
Alors Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, hein, il a eu 22% lors du premier tour. Certains des électeurs de la France insoumise avaient quand même clairement dit qu'en cas de duel Marine Le Pen Emmanuel Macron, eh bien, il pourrait faire barrage à Emmanuel Macron. Comment est-ce que le président sortant peut gagner ces voix de la France insoumise? Est-ce que c'est possible?
Alors d'abord, le vote quand même en faveur de Jean-Luc Mélenchon est un vote beaucoup plus hétérogène qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'on l'a dit, il a bénéficié d'une sorte de vote utile à gauche, venant en partie des écologistes ou venant en partie de ce qui reste du Parti Socialiste, en tout cas dans son offre politique nationale. La réalité, c'est que si vous voulez, je pense que la partie du vote utile de Jean-Luc Mélenchon, qui vient de la gauche social-démocrate ou écologiste, de ce côté-là, je pense qu'ils feront leur devoir, c'est-à-dire, en d'autres termes, ils iront voter contre Marine Le Pen. Reste ensuite, en effet, un substrat qui, encore une fois, est beaucoup plus radical dans son opposition à la majorité sortante et au président sortant. Et là, il y a une vraie question qui se pose, savoir si cet électorat-là va aller jusqu'au bout, finalement, de l'appel implicite quand même qu'a fait Jean-Luc Mélenchon en disant « pas une voix », il a répété 4 fois, il faut s'en souvenir, « pas une voix pour Marine Le Pen ». Donc en creux, on peut considérer quand même que pour faire barrage à un moment donné à quelqu'un, il faut bien évidemment, je veux dire, mettre un bulletin de vote, et le bulletin de vote...
Enfin, ça peut aussi vouloir dire ne pas voter,
oui,
mais voter blanc.
Hein.
Ça laisse la place à l'abstention, et c'est le grand danger pour
Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'il faut qu'il arrive à, si vous voulez, à arbitrer entre la nécessité pour lui de montrer qu'il ne fait pas la courte échelle à Marine Le Pen, et en même temps, qu'il est, il faut qu'il respecte aussi une partie de sa base, qui est en effet une partie de sa base qui est fortement opposée au président sortant. Donc c'est un exercice un peu de en même temps, lui aussi, qu'il fait. Et donc c'est cet exercice-là auquel il s'est adonné lors du soir du premier tour. La réalité, c'est que aujourd'hui, quand on regarde les études, on voit qu'il y a, disons, une moitié à peu près de cet électorat qui risque de s'abstenir, et ensuite, peut-être, en fonction des études, ça bouge beaucoup quand même, en l'occurrence, tous les jours, on voit que ça évolue, mais globalement, on a plutôt 30% de cet électorat qui pourrait voter Emmanuel Macron, et peut-être un peu moins pour Marine Le Pen.
Alors, Valérie, les Insoumis en veulent beaucoup, beaucoup, à Fabien Roussel, le candidat communiste, à cause duquel, selon eux, Mélenchon ne serait pas, n'est plus au deuxième tour, on n'est pas au deuxième tour, alors qu'il aurait pu, encore une fois, selon eux, remplacer Marine Le Pen. Il manquait à Jean-Luc Mélenchon 421 420, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il le séparé de Marine Le Pen. Et on rappelle que Fabien Roussel a eu 800 000 voix. Donc pour les Insoumis, eh bien, si ces voix-là avaient été pour Jean-Luc Mélenchon, ça aurait plutôt marché. Aujourd'hui, pourtant, Fabien Roussel invite Mélenchon à faire équipe pour les législatives.
Oui, c'est les soubresauts et les aléas de ce duel entre les Insoumis et les communistes, entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Fabien Roussel, il a tenté le coup dans cette élection-là. La dernière fois, ils avaient été sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon. Les communistes, cette fois-ci, ils ont voulu exister. Ils ont voulu tenter de se redynamiser, de ne pas disparaître sous les radars et d'être totalement étouffés, définitivement étouffés par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Et en effet, ils ont pris des voix. Fabien Roussel a fait une campagne tout à fait honorable, on le connaît mieux maintenant, lui et sa France des jours heureux, ça a marché, ça a fait 800 000 voix, et c'est vrai qu'il en a manqué 400 000 à Jean-Luc Mélenchon. Alors maintenant, il est revenu, Fabien Roussel, à la réalité de la vie politique, hein. Il faut préparer les législatives, c'est le plus petit, il tend la main au plus fort, parce que la dynamique électorale, elle est du côté de Jean-Luc Mélenchon et de ses 22% de voix au premier tour, donc il tend la main, mais comme vous le disiez, c'est pas sûr que les Insoumis la prennent tout de suite, cette main tendue, parce qu'ils ont un peu le premier tour dans le collimateur. Bon, il va y avoir des tractations, des négociations entre les Insoumis et les communistes, et puis avec les autres partis de la gauche. Il y a aussi les écologistes là-dedans qui sortent déplumés de ce premier tour. Là aussi, Yannick Jadot est tombé sous les 5%. Il ne pensait pas faire un score aussi faible. Les socialistes, alors on sait que Insoumis socialiste, c'est très difficile. Ça ne va pas être forcément la négociation la plus simple et l'alliance possible. Mais il va falloir qu'ils essayent de s'entendre, même même si on sait que la gauche, elle est divisée et fracturée, parce que pour peser, ils ont bien vu qu'ils se sont, ils ont buté sur le premier tour parce qu'ils étaient tous divisés.
Alors, il y a le débat de l'entre-deux tours, c'est un moment fort et important, hein, que tout le monde attend, c'est mercredi prochain. C'est un peu la manche retour pour Marine Le Pen, qui espère probablement faire mieux que le duel de 2017.
Vous savez, on a eu déjà, c'est le deuxième débat de ce type, si vous voulez. Il y a eu en 74 le débat Giscard-Mitterrand, 81 le match retour Mitterrand-Giscard, et c'est la première fois depuis finalement cette époque qu'on a deux candidats, les deux finalistes qui vont débattre à deux mandats de distance. Oui, alors si vous voulez, un débat télévisé, quand on regarde ce que disent les politistes, les politologues, ils vous disent un débat télévisé ne fait pas gagner une élection. C'est très difficile de quantifier si, à un moment donné, un candidat va l'emporter sur l'autre.
On a quand même pensé qu'elle a perdu des points.
Oui, en tout cas, ça peut la faire perdre. Voilà, la difficulté, c'est que le débat peut vous faire perdre. Ouais. Peut vous faire perdre. Et on l'a vu, le débat de 2017 reste un marqueur fort dans la cristallisation de l'image de Marine Le Pen, parce que, tout simplement, elle est apparue comme une candidate qui était fragile, qui n'était pas crédible, qui n'était pas compétente.
Et en face, Emmanuel Macron assure aussi sur cet exercice-là, de la prise de parole en public et de cette manière de mener le débat.
Évidemment, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a une pratique... D'abord, il dispose d'un avantage. C'est qu'il a la stature présidentielle. Il a 5 ans de stature présidentielle. Donc la perception que peuvent avoir un certain nombre de téléspectateurs et de citoyens, c'est qu'en effet, il habite la fonction, même si on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est un avantage, malgré tout, dans un débat face à quelqu'un qui doit faire la démonstration... qu'elle est en mesure d'habiter la fonction. Alors, c'était pas le cas en 2017, c'est vrai. Mais aujourd'hui, pour Marine Le Pen, c'est vrai que, à la limite, je dirais que le fait de ne pas rater le débat et d'être un peu mieux que ce qu'elle était en 2017 constituera déjà une forme de succès. C'est sûr que, si vous voulez, ce débat est important parce que l'écart, quand même, entre les deux candidats est quand même, pour l'instant, encore serré, qu'on le veuille ou non. Donc, le débat prendra un relief tout particulier et on voit bien que d'ailleurs, on a cru comprendre que Marine Le Pen allait le préparer durant les 48 heures
Parce qu'elle était arrivée épuisée, qu'elle veut mettre toutes les chances de son côté.
Alors Emmanuel Macron, justement, lui aussi doit se préparer pour ce débat, j'imagine aussi bien sur le fond que sur la forme.
Oui, alors du côté d'Emmanuel Macron, on fait justement la communication, c'est nous on va pas, il va pas se mettre deux jours sans rien faire. Il parle même d'un déplacement la veille, éventuellement en Île-de-France. Donc la communication, en tout cas autour de la préparation, c'est d'accord, on le prépare avec minutie, mais il y a une espèce de supériorité affichée sur la préparation. Emmanuel Macron n'arrive pas du tout, bien sûr, avec le même handicap de départ, puisque lui, il n'avait pas raté son débat en 2017. Mais il arrive avec un enjeu supplémentaire. C'est le président sortant. Alors d'accord, il a la stature, il a la stature de chef d'État, il a montré qu'il a géré des crises, il a montré que il a plus rien à démontrer sur cette stature-là. Mais il a un bilan, et ce bilan, Marine Le Pen va lui renvoyer systématiquement à la face durant ce débat, et il va devoir se défendre. Et puis Emmanuel Macron, il faut qu'il évite, pour moi, des écueils qui pourraient vite le rattraper. Déjà, ne pas apparaître justement trop condescendant face à une adversaire qui a raté son premier débat et qui n'a pas sa stature présidentielle. On sait que le président peut de temps en temps aller sur ce chemin-là. Et puis il faut qu'il évite aussi l'agressivité. Il en a fait preuve juste avant le premier tour. En effet, il a été très virulent face à Marine Le Pen. Ça ne serait certainement pas son avantage si elle arrive à garder ce calme qu'elle a réussi à garder dans la campagne. Donc c'est pas aussi simple non plus. La situation d'Emmanuel Macron, elle est différente. Il joue une réélection. C'est plus le petit nouveau de la classe politique qui arrive avec un petit peu auréolé de sa nouveauté. Et en fait, il y avait moins d'enjeux d'une certaine manière en 2017 qu'il y en a en 2022 pour Emmanuel Macron aussi.
Alors, Arnaud, pour finir, vous dites que l'élection présidentielle se joue sur la capacité à incarner la fonction. Bien évidemment, on en a un, le président sortant, qui du coup l'incarne forcément, mais est-ce qu'il l'incarne ou pas aux yeux des Français? Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui a raté un premier débat et qui refait...
Je partage ce qui vient d'être dit, c'est que la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'en effet, c'est pas un produit nouveau par rapport à 2017 et qu'il a le handicap de ses avantages, c'est-à-dire le fait qu'il est le sortant. Donc à un moment donné, le sortant, il faut qu'il défende son bilan. Ensuite, quand on regarde aussi un certain nombre de traits d'image nouveaux qui ont été mis en avant par un certain nombre d'instituts de sondage, c'est que sur certains traits d'image, Marine Le Pen a pris l'avantage sur Emmanuel Macron, notamment sur la question de la proximité, sur la question de l'écoute. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ce qui a été reproché depuis maintenant 5 ans à Emmanuel Macron, c'est d'être parfois trop en distance par rapport aux Français, parfois d'être dans une surassurance qui peut nuire finalement au fait qu'un président de la République, il est là aussi pour rassembler. Et la capacité à rassembler, c'est un autre élément extrêmement important.
Et à ne pas mépriser les électeurs de Marine Le Pen en l'humiliant.
Exactement.
Merci beaucoup, merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Restez sur France 24. À très bientôt et très bon week-end.
Présidentielle 2022. Dès 13h sur France 24 et en direct. Eh oui, le second tour de l'élection présidentielle 2022 a des allures de celui de 2017. Mais l'écart s'est resserré il y a quelques jours entre le candidat et désormais président sortant Emmanuel Macron et son opposante Marine Le Pen. Les Français d'origine maghrébine et africaine ont peur de l'arrivée de l'extrême droite à l'Élysée. Il y a quelques mois, un magnifique documentaire sur France 2 donnait la parole à des Français noirs de tous âges et de tous horizons. Ils racontent leur histoire, pétrie de stéréotypes et d'idées reçues, mais pleine d'espoir et de fierté. Et justement, notre ami Claudie Sillard, animateur vedette de Couleur Tropicale à RFI, très populaire en Afrique, lance une mise en garde. On l'écoute.
Hello la famille, dans à peu près une heure, je publierai ma vidéo dans laquelle je prends très clairement position au regard de la réalité de ce second tour de l'élection présidentielle française. Alors certains sur les réseaux commencent déjà à dire « Oui, il faut voter Marine Le Pen pour aller vers l'émancipation de l'Afrique ». Si vous osez dire ça, c'est que vous n'avez rien compris. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. J'appartiens à une génération où dans les années 80, les fachos faisaient le tour des banlieues. Et aux sorties des écoles, des collèges, des lycées, frappaient tout ce qui était noir, arabe, asiatique, tous ceux qu'ils identifiaient comme étant des juifs, comme étant des musulmans. Et vous pensez qu'aujourd'hui, moi, je vais donner ma voix à ces gens-là, qui font l'ADN d'un parti politique ? Il a fallu qu'on s'organise pour se défendre, pour repousser ces gens-là. Ayons un peu de dignité, d'estime de soi. Ne faisons pas n'importe quoi. Attendez ma vidéo et vous comprendrez, j'expliquerai pourquoi j'ai fait un choix et pas un autre.
Francophonie et diversité. Popourri Show enquête.
Pourquoi des élèves issus de plus de 30 familles noires auraient été placés dans un programme de soutien linguistique à Ottawa sans le consentement de leurs parents ? C'est ce qu'a rapporté The Globe and Mail dans un article publié jeudi 24 mars. Les familles ne l'auraient appris que 2 mois après la rentrée scolaire, lors de la remise du premier bulletin, selon Charlene Grant, responsable du plaidoyer chez Parents of Black Children, l'une des nombreuses organisations à défendre les familles. Et oui, certains Québécois, franco-ontariens, auditeurs et même des anciens fonctionnaires du gouvernement de l'Ontario sont choqués, en colère. À vous la parole. Que pensez-vous de l'approche de cette école du Conseil scolaire public francophone à Ottawa? Écrivez-nous en toute confidentialité à popourri@cut.fm. Popourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto, témoin privilégié de la francophonie depuis plus de 35 ans au Canada et dans le monde.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Pot Pourri Show, le magazine de la francophonie. L'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, Educ Nation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Pot Pourri Show en nous envoyant un message à potpourri@cut.fm ou visitez notre site web potpourrishow.com. Pot Pourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
France 24 est la première présente. Découvrez votre nouveau magazine d'information consacré aux territoires et départements d'outre-mer. France 24 et la première s'associent pour vous présenter des reportages inédits au cœur de la population et des sociétés ultramarines. Décryptage de toute l'actualité marquante de la semaine, analyse et partage de connaissances. Partez à la découverte des richesses des territoires d'outre-mer sur France 24 et France24.com.
Dimanche 24 avril 2022. Bonjour et bienvenue à Pot Pourri Show, votre magazine de la francophonie sur CUT 89,5 FM Toronto. Et oui, vous êtes bien branchés sur la radio de l'Université de Toronto, l'ingénieur du son DJ Dovera, production animation Eric Kader avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Et nous sommes très heureux d'être de retour. Pour écouter nos émissions, que vous soyez sur la planète, une seule adresse, potpourrishow.com. Et merci à ceux et celles qui nous ont suivis sur Facebook lors de nos escapades dans les Antilles. Et bienvenue aux nouveaux membres de Montréal, du continent africain, de l'Europe, un peu partout, Canada. Et je vous invite à suivre les podcasts du CREFO sur quoideneuf.ca, notre partenaire. Et notre information importante de Sophie Franc, notre partenaire communautaire, camp d'été multi-art du 18 juillet au 29 juillet, de 8h à 17h30, une bouffée d'oxygène pour les enfants de 6 à 13 ans. Ce camp d'été multi-art sera animé par l'éducatrice artistique très connue dans le monde artistique en Ontario, Justine Gogois, avec plusieurs activités, notamment l'apprentissage d'instruments de musique, l'écriture, la peinture, la danse, le conte, etc. Hâtez-vous, les places sont limitées. Pour plus d'informations, 905-714-7333 ou le 905-226-5282. Vous retrouverez tous les détails sur popourrishow.com. Avec le concours de ses bénévoles, Sophie Franc planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Et Jocelyne Gogois sera bientôt à nos micros. Les journées belges à Toronto du 25 au 27 avril à ne pas rater. Ciné Franco a le plaisir de co-présenter Paris Pieds Nus, un film, une comédie hilarante de Dominique Abel et Fiona Gordon. au théâtre Spadina, 24 Spadina à Toronto, l'Alliance française. Pour plus de renseignements sur le film et les billets gratuits, contactez l'Alliance française de Toronto ou visitez tout simplement le site cinefranco.com.
Si tu es DJ, je m'invite dans tes mix en voix off et les masterise. J'entre chez toi pour ton anniversaire, ton mariage ou tout simplement pour ambiancer une teuf entre amis.
Et oui, c'est DJ Charlo de Martinique, le roi du zouk. Et oui, il faut des beaux mix. Vous écoutez Popourri Show, votre magazine hebdomadaire qui célèbre ses 35 ans cette année. Une radio financée par des auditeurs, une émission financée à 100% par des auditeurs, des auditrices, des partenaires francophones au Canada et dans le monde. Et justement, au mois de mai, nous allons faire appel à votre générosité. J'espère qu'on pourra compter sur vous. Vous pouvez nous joindre en nous écrivant popourri@cut.fm. Et nous saluons nos amis qui sont au 46e Festival du Printemps de Bourges en France, qui a débuté mardi 19 avril et se termine aujourd'hui dimanche. 150 artistes et plus d'une cinquantaine de spectacles. Après 2 ans de confinement, le Festival du Printemps de Bourges connaît un vrai succès. Quelques extraits des artistes invités, si on a le temps, et l'entrevue avec Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges, qui était l'invité de France Inter cette semaine. Ah oui, j'ai rapporté plein de surprises, de cadeaux. Et oui, des surprises musicales dans mes valises, ainsi que des souvenirs du Festival du Livre et de Jazz à Saint-Barth à ne pas manquer. Et moment magique, et la journée de commémoration de la mort du grand poète et auteur martiniquais Aimé Césaire. C'était dimanche dernier, 17 avril. En effet, ça fait 14 ans qu'Aimé Césaire nous a laissé. La mort de l'illustre homme de lettres, lire Aimé Césaire et comprendre le monde. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans les Caraïbes et en France. Et maintenant, place aux journaux des Amériques, d'Haïti et de l'Outre-mer avec Radio France Internationale. Ne partez pas.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Allez, le code de RFI, on retrouve Mickaël Ponge pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Bonjour, Anne Mercy, les 9h10 à Jacmel. Jacmel au sud-est d'Haïti, dont le grand marché public est en flammes. Ce matin, immense incendie. On est sur place dans un instant. Elle est devenue un symbole de la lutte contre la peine de mort aux États-Unis. Son cas mobilise dans le monde entier. Mélissa Lucio, accusée d'infanticide, doit être exécutée la semaine prochaine au Texas. C'est notre dossier du jour. Ce sera juste avant de vous retrouver. Benoît Ferrand pour le journal de la première. Clap de fin pour la marina du principal port de Guyane.
Eh oui, les pontons du port de plaisance de Desgrades-des-Cannes ont été démontés les uns après les autres au grand dépit des plaisanciers. Nous les entendrons.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Benoît, et bienvenue à tous.
RFI à Jacmel, 96.9 FM.
Le bruit des flammes qui illumine le noir de la nuit. Extrait d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux il y a quelques heures à peine de l'incendie qui s'est déclaré tôt ce mardi matin sur le marché public de Jacmel, chef-lieu du département du sud-est d'Haïti. Image impressionnante, pas de bilan humain communiqué encore, hein, mais rien qu'à voir ces images, les pertes matérielles s'annoncent énormes. On est en ligne avec Étienne Côté-Paluc, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Vous êtes journaliste canadien basé en Haïti, merci d'être en ligne avec nous. Vous venez d'arriver sur place, quelle est la situation à cet instant où l'on se parle? Que voyez-vous autour de vous, Étienne?
Pour l'instant, les flammes semblent être contrôlées, il y a encore beaucoup de fumée. Là où je me trouve, il y a une grande foule qui observe, mais on est entouré de feux et de petits feux un peu partout parce que là, on s'attelle à ramasser les bouts de cendres qui restent encore en fumée, qui peuvent brûler encore pour les sortir du building pour empêcher que ça se propage encore. Donc pour l'instant, tout est noir sur le marché. Vraiment, les déchets, les amondices de déchets se sont empilés en train de brûler un peu partout et les employés de la ville s'affairent donc et certains propriétaires de kiosques s'affairent donc à nettoyer le tout. Ça semble pour l'instant être en tout cas à tout le moins sous contrôle, mais les gens ici sont vraiment sous le choc. Les marchés ont tout perdu. Il semble que que l'ensemble du marché Brésil, qui se trouve être la plus grande partie, on surnomme Brésil donc du marché en question, est pris feu. Et c'est là qu'il se trouvait toutes les marchandises qui étaient liées à l'importation, surtout, donc des marchandises de grande valeur.
Le choc, hein, vous le dites, c'est véritablement ce qui ressort là des gens. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de réactions. En effet, beaucoup de monde massé peut-être aussi autour de vous là tout de suite, Étienne.
Oui. Oui, oui, c'est la foule ici, c'est vraiment le centre économique de la ville qui est touché, donc les gens sont venus voir, les gens qui travaillent ici ont perdu leur job, ont perdu leur commerce, donc vraiment, c'est la consternation. On espère que le gouvernement va aider ces marchands-là, ce que nous disaient certains d'entre eux, mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Les pompiers sont arrivés pendant la nuit. On pense que ce serait probablement lié à une mauvaise gestion des déchets qui auraient été trop près de certains bâtiments et dans lesquels on aurait mis le feu pendant la nuit pour espérer s'en défaire, mais le feu s'est propagé dans le reste du marché.
Vous parlez des pompiers, Étienne. Quel est le dispositif? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde mobilisé en termes d'effectifs, de pompiers là tout de suite pour contenir ce feu là, comme vous le disiez tout à l'heure?
Mais pour l'instant, je ne vois toujours pas les pompiers sur place. Ah oui, il y a un camion derrière moi, il y a des pompiers qui sont là, qui travaillent individuellement, un seul camion de pompiers. Évidemment, la force de pompiers de Jacmel n'est pas énorme, mais ils sont là pour donner des conseils. Ils sont arrivés au courant de la nuit. On les avait vus d'ailleurs sur d'autres vidéos en ligne, justement. Et ils font leur travail comme ils peuvent, les employés de la ville aussi, de la municipalité, donc qui sont là à dégager les endroits. Il y a vraiment encore du feu un peu partout, mais comme je le disais, c'est contrôlé. On essaie de retirer les endroits où il y a de la fumée dans les cahiers, par exemple, des cahiers scolaires. On les retire pour pas qu'ils restent dans le bâtiment pour qu'ils puissent se brûler à l'extérieur.
On peut finir peut-être, Étienne, en rappelant l'importance de ce marché et dire aussi le contexte dans lequel cet incendie s'est déclaré. On est sur la fin des fêtes de Pâques.
Oui, c'est la fin des fêtes de Pâques. C'est parmi les plus grosses fêtes annuelles dans la ville. Toute la fin de semaine, tout le week-end, il y avait des fanfares qui ont pris les rues dans toute la région, avec évidemment des grandes foules. Et c'était donc fermé pour Pâques. Le marché, pendant 3 jours, il a réouvert hier une première journée. C'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de poubelles qui se sont accumulées. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé hier. Il y a eu aussi un autre grand accident de la route durant la fin de semaine à cause de cette célébration-là. Une de ces fanfares-là a été durement touchée. Donc, ici, on accumule certains problèmes. Mais bon, pour l'instant, au minimum, les gens se rassurent autour du marché. Il n'y a pas eu de perte de vie humaine jusqu'à présent de comptabiliser. Donc, au moins, les gens sont sains.
C'est ça, déjà. Merci beaucoup, Étienne Côté-Paluc, journaliste québécois en Haïti. Vous étiez donc en direct avec nous de ce marché de Jacmel, une zone et une ville que vous connaissez bien. Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour, Michael.
Grande connaisseuse d'Haïti à la rédaction de RFI. Vous vouliez ajouter quelque chose, Stéphanie, à ce sujet?
Oui, en fait, je voulais ajouter ce que disait ce matin le Nouvelliste, en fait, dans un premier article paru il y a quelques minutes. Le Nouvelliste qui insiste sur le fait que les pertes vont être énormes. Le Nouvelliste parle de plusieurs millions de gourdes de marchandises. Au moins 40% des marchandises sont parties en fumée, fait savoir aussi la mairie de Jacmel. Des produits, rappelle encore le Nouvelliste, achetés, et ça c'est très important, Michael, avec de l'argent emprunté à des taux très élevés d'institutions de microcrédit par ces marchands et ces marchandes de la classe moyenne qui ont donc ce matin tout perdu.
Et on reviendra évidemment dans les prochains jours sur cet incendie et ses conséquences.
Le journal d'Haïti et des Amériques. Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand. Benoît, cette fois, c'est bel et bien terminé. La marina du principal port de la Guyane n'existe plus.
Eh oui, les pontons du port de Dégrade-des-Cannes ont été démontés l'un après l'autre, notamment, semble-t-il, pour faire de la place, selon les autorités du grand port maritime. Mais c'est un véritable crève-cœur pour ces plaisanciers, par exemple, de retour d'un tour du monde qu'Olivier Damon a rencontré.
Lionel et Yamile auraient espéré un autre accueil pour leur retour au pays après 4 ans à travers les océans. Parti le 21 janvier 2018 pour un tour du monde à la voile, le couple de navigateurs guyanais a retrouvé son port d'attache vendredi dernier, sauf qu'ils ne sont plus. Les bienvenus à Dégrade-des-Cannes.
C'est un peu regrettable. Toutes les marinas dans le monde entier sont en train de se développer ou en train de se créer.
Lionel, navigateur.
Et ici, on se retrouve avec une marina qui fait le contraire. Que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, ça se développe. Et en Guyane, ça ferme.
À leur départ, il y a 4 ans, la Guyane disposait encore d'une marina. Aujourd'hui, une grande partie des installations ont été retirées par le grand port maritime. En attendant un nouveau départ qui pourrait être précipité, nos navigateurs sont contraints au mouillage à quelques centaines de mètres au large des installations de Dégrade-des-Cannes. La seule solution, offerte aux plaisanciers pour vivre dans leur bateau en Guyane.
On reste en Guyane avec cette statue d'un chaman amérindien, statue en bois sculpté, installée sur un rond-point de Matoury et surtout statue vandalisée, sans doute à coups de sabre, aux grandes dames, évidemment, des représentants des associations représentantes des peuples premiers, entre guillemets, du département de l'Amérique du Sud. Guillaume Perrault.
Les membres de la Fédération Logono de Guyane sont sidérés qu'on ait pu vandaliser le chaman, premier monument dédié aux six nations amérindiennes. Anne-Marie Chambrier, présidente de la Fédération Logono-Guyane.
C'est toucher à un symbole. Et quand on touche à un symbole, quelle que soit la civilisation, le peuple, c'est une atteinte envers ce qu'elle représente, envers sa culture, envers ses croyances.
De la statue, seule la femme et l'enfant au pied du chaman ont été dégradés par ce qui pourrait être des coups de sabre. Le visage de la femme était aussi recouvert d'un sachet plastique. La Fédération Logono-Guyane, responsable du site, a porté plainte pour acte de vandalisme sur monument public. Pour éviter toute récidive, il souhaiterait que la statue soit éclairée la nuit.
Bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. À vous et aux équipes de la première, merci aussi à Claude Battista qui était aujourd'hui à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques que vous pouvez retrouver bien sûr sur RFI.fr, les plateformes de podcast et notre application RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes.
Les fausses informations, tout le monde en parle.
Fake news.
Dans Info Intox, vous allez voir des exemples d'infox qui nous montrent que certains internautes sont parfois prêts à tout pour vous tromper.
Retrouvez l'édition spéciale d'Info ou Intox lundi dans Paris Direct sur France 24 et France24.com.
Et oui, c'était le son de l'Outre-mer avec Tempo Classique Live. C'est une nouvelle formation constituée de musiciens professionnels de la Guadeloupe. Cristal, Jean-Michel, Lédel, Claudie, Durisso, Karim Verger, Mela El, Panjian Nyandi et Jérôme Castri, Silverman. Nouveau single donc à découvrir, Baudet de Tempo Classique Live en direct de la Guadeloupe qui était aussi sur France Inter il y a quelques semaines. Et maintenant, place au Festival Printemps de Bourges, édition 2022. Après 2 ans d'absence à cause du Covid, Jacques et Thomas Dutron, père-fils, étaient au rendez-vous. Et Clara Luciani, Vianney, mais aussi I Am, Juliette Armanet, Pomme ou encore Brigitte Fontaine font partie de la programmation de cette édition 2022. Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges, était l'invité sur France Inter quelques heures avant le début du festival, mardi dernier. Il a dit, et je cite, « Il faudra vivre avec la Covid et ce n'est pas ça qui va gâcher la fête. » Et après, vous entendrez les voix des Dutron, père et fils, qui ont eu un accueil chaleureux. Allez, pour Pourri Chaud, 35 ans déjà, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
France Inter. Mathilde Munoz, le 5-7.
Il est 6h20, Gaëtan Roussel et les Dutron, père et fils. Voilà l'affiche d'ouverture du Printemps de Bourges ce soir. 46e édition, une vraie de vraie, hein, pas comme les deux dernières qui avaient été tronquées à cause de l'épidémie de Covid. Bonjour Boris Vedel.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Printemps de Bourges. Il n'y a donc aucune restriction cette année, ni masque, ni jauge, tout va bien ?
Aucune restriction, simplement celle de s'amuser, enfin.
Et s'amuser partout dans toute la ville.
Exactement. Ça fait, on a fait 2 années avec des éditions hybrides, comme vous le disiez, des formats un peu contraints, un petit peu moins d'artistes, mais surtout avec une ville qui devait se taire, j'ai envie de dire. Et le Printemps de Bourges, Crédit Mutuel, ça a cette spécificité d'avoir des salles, bien sûr, mais aussi toute une ville en fait, avec des scènes gratuites, des expositions, des conférences, dans laquelle on retrouve d'ailleurs un mur également à Bourges sur l'ancienne vision de la culture et une exposition avec laquelle Radio France est associée. Donc là, cette fois-ci, ce sera donc toute la ville, avec un nouveau lieu également, destiné aux enfants au pied de la cathédrale.
Oui, il y a plein d'animations pour les enfants, j'ai vu ça, il y a des cours de danse hip-hop, il y a des ateliers sur le bruitage, voilà, il y a de quoi les occuper aussi dans la journée avant les concerts. Alors, les concerts, parlons-en, il y a quoi, plus de 120 artistes, hein, c'est ça, programmé cette année ?
Oui, c'est ça, avec tous les artistes invités sur les créations, on est même à 150 artistes, et plus d'une cinquantaine de spectacles, donc il y a de quoi faire, et toutes les esthétiques du rap aux musiques du monde, en passant par le jazz et le piano, beaucoup de piano cette année.
Et est-ce que la programmation a été difficile à faire après 2 éditions plus restreintes ? Est-ce que tout le monde avait envie de venir ? Est-ce que vous avez dû refuser des artistes ?
Alors, on en refuse toujours un petit peu, ça c'est sûr. On aimerait faire plus, mais voilà. Non, la seule contrainte, c'était peut-être sur les artistes internationaux qu'on programme très en amont. Et c'est vrai qu'il y a un an, et même 6 mois encore, c'était difficile d'avoir la confirmation des artistes internationaux. Donc, on a toujours 25% d'artistes qui viennent de en dehors des frontières françaises, mais c'est une programmation un peu plus française et francophone cette année.
Alors, vous n'avez pas eu d'annulation de dernière minute, ça va ?
Pour l'instant, je touche du bois.
Alors, j'ai vu la programmation, que ce soit pour les têtes d'affiche ou les artistes émergents, j'ai l'impression que les programmateurs musicaux de France Inter ont un peu les mêmes goûts que vous. C'est un peu notre playlist qui est sur scène à Bourges.
Oui, c'est vous savez qu'on est partenaire, il y a pas mal de raisons, c'est qu'on a une certaine affinité avec votre équipe, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a Clara Luciani, Juliette Armanet, Eddie De Preto, Ayam, Vianney, ça c'est pour les têtes d'affiche. Il y a aussi Charlotte Adigéry et Bolis Pupul, on en a parlé il y a pas longtemps dans le 5-7, Marie-Flore, Rouquine, Polo Epan et j'en passe. Comment on pourrait résumer cette édition ? Donc il y a toujours évidemment vedettes et découvertes, hein, ça c'est une des marques de fabrique de votre festival, mais il y a surtout beaucoup de créations, même du côté des stars.
Oui, le printemps, il se résume en 3 mots. C'est création, découverte, émergence. Voilà, c'est les 3 mots clés qui nous font réaliser chaque année le projet Printemps de Bourges Crédit Mutuel. Effectivement, beaucoup d'artistes connus, mais quand même, 65% de l'affiche sont des jeunes talents. Et sur une programmation quasi paritaire cette année. Donc, c'est ça qui définit le printemps. C'est cette envie de démontrer, de montrer la nouvelle génération. On aime à dire que c'est le festival où tout commence, avec l'émergence, et puis ensuite on retrouve des artistes soit en tête d'affiche, soit encore une fois dans les créations, et il y en a beaucoup cette année au printemps.
Ouais, il y a des créations étonnantes. Il y a par exemple Pomme qui va réinterpréter le répertoire de Céline Dion. Il y aura une soirée spéciale consacrée à Brigitte Fontaine. Puis il y a aussi l'écrivain Michel Houellebecq qui va déclamer ses poèmes sur de la musique. De qui vient l'idée? C'est vous qui l'avez ou c'est lui qui a frappé à la porte qui vous a suggéré ça?
Alors, c'est les artistes qui ont toujours l'idée, nous on les accueille, mais effectivement, on sait qu'il s'est prêté au jeu, donc on lui a reproposé, il nous fait plaisir, un immense plaisir de revenir jouer au Palais Jacques-Cœur. Faut savoir que c'est une salle pour à peine 100-120 personnes, donc c'est un moment très rare, ça donnera envie à tout le monde de retourner dans les salles, c'est très important. Et en plus, la salle n'est pas la porte à caisse, c'est le Palais Jacques-Cœur, qui est un des monuments nationaux des plus beaux en France, un des tout premiers palais pré-renaissants. Donc c'est l'occasion de visiter le patrimoine également de la ville de Bourges.
Et vous dites que ça donnera envie au public de revenir. Est-ce que le public sera au rendez-vous justement? Est-ce que comment ça se passe au niveau des réservations?
Moi, j'en ai aucun doute, il sera là, il est déjà là, j'ai envie de dire. Maintenant, sur certains publics, c'est vrai qu'on observe, que ce soit dans les salles de cinéma, les salles de théâtre ou également dans les festivals, il y a des habitudes qui se sont un petit peu perdues. Et n'oublions pas que bon, il y a quelques jours, on était dans une flambée épidémique. Donc, il y a toujours cette inquiétude. Non pas, la maladie fait un peu moins peur, mais cette inquiétude de, bon, si j'achète ma place et que j'attrape le Covid, est-ce que je vais perdre de l'argent? Donc, les gens se décident vraiment à, de plus en plus à la dernière minute. Le temps que les choses se tassent, il faudra vivre avec. Et écoutez, c'est pas ça qui va gâcher la fête.
Il y a eu 200 000 personnes alors, lors de la dernière vraie édition, hein, c'est celle de 2019. Vous en espérez autant cette année?
Bien sûr, j'ai aucun doute.
Aucun doute, il y en aura 200 000. Vous nous disiez que certains avaient perdu le réflexe festival. Vous parlez de qui exactement? Qu'est-ce qui vient habituellement au Festival de Bourges? C'est de tous âges?
Oui, alors vraiment, nous, c'est de tous âges, parce que vous savez, entre Vianney ou Vitali, ou encore des artistes comme Boris Pupu, que tout le monde ne connaît peut-être pas, on est vraiment sur tous les âges et toutes les esthétiques. Et donc, les jeunes, ça cartonne avec le rap, ça c'est sûr, et le passe culture qui fonctionne de façon extraordinaire. C'est peut-être la génération des vingtenaires, trentenaires qui eux, donc, pendant 3 ans, ont appris à faire la fête différemment. Donc, c'est vrai qu'ils ont tendance à acheter leur place tout à la fin. Donc, appelez-moi lundi, je vous dirai si définitivement il ne veut plus venir au festival. Moi, je pense que c'est juste que c'est un acte d'achat qui est de plus en plus tardif. Et peut-être aussi des publics plus populaires ou un petit peu plus fragiles au regard de la maladie. Et aussi ceux qui ont peut-être un peu moins de moyens et ce qui est une problématique de pouvoir d'achat.
C'est ce que j'allais vous dire, il y a Covid, mais il y a une question de budget.
Qui est là en France de prix nantes depuis quelques semaines, quelques mois.
Ça coûte combien un concert au printemps de Bourges?
Mais écoutez, nos prix vont de 5 euros à 55 euros, donc il y en a pour toutes les bourses. Mais le prix moyen, c'est entre 20 et 25 euros.
Mais à cela, il faut rajouter hein, les trajets, éventuellement l'hébergement, il faut se nourrir aussi. Donc voilà, effectivement, c'est quand même un petit budget. Est-ce que vous avez des systèmes de passe sur plusieurs jours, des choses comme ça?
Oui, il y a des passes pour la plus grande salle du festival qui peut monter jusqu'à 12 000 personnes. Il y a des passes sur un jour, deux jours. Sur les grandes salles, il y a des passes. Après, sur toutes les petites salles, non, parce que ce serait très compliqué. Comme les jauges sont pas pareilles, entre 10 000 et 100 personnes, on pourrait avoir des problématiques d'embouteillage dans les petites salles. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de passes. Mais moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que le printemps, c'est un festival où on peut venir sans acheter une place. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de culture qui est en accès libre, donc ça veut dire gratuit. Dans toute la ville, dans les lieux du printemps, mais aussi dans tous les bars et les restaurants. Donc, c'est l'occasion de venir, de consommer la culture, de voir la culture. Et puis surtout, il y a toute la ville qui est magnifique avec une culture patrimoniale qui, si vous ne connaissez pas Bourges, venez. C'est l'un des plus beaux centres-villes moyenâgeux de France.
Je connais et je confirme, je suis bien d'accord avec vous, Boris Vedel. C'est toute la ville qui est en fête, donc avec le Printemps de Bourges qui s'ouvre ce soir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de ce Printemps de Bourges et vous étiez l'invité du 5-7.
France Inter.
Avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon face au foie, j'y pense et le jury, c'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi, avec ma voiture et mon chien, son calibou, parti la voix, j'y pense et le jury, c'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi. Avec des manies et des tics, dans mon petit lignon plus au doigt, j'y pense et m'y jouer. C'est la vie, c'est la vie.
train, faut que je rentre sur Capit. Je vais vous dire au revoir, je vous félicite et vous remercie tous. Je remercie Dartaf aussi de Capit. Je remercie Michel Drucker, merci beaucoup. Et c'est bien. Bon, Thomas, je vais te finir, je t'attends.
Tu veux pas finir de répéter parce que la première date, c'est quand même dans 2 mois.
Je vais apprécier ma récompense, merci beaucoup.
500 millions de Sud-Américains, et moi, et moi, et moi. Je suis tout nu dans mon bain, avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi, et moi. Petit martien, et moi, et moi, et moi, de parisiens, on attend un chèque de fin de mois, on y pense et on oublie, c'est la vie, c'est la vie.
CUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. 2022, Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Eh oui, et Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et surprises.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Ici, c'est toujours numéro 1. Numéro 1 en Guadeloupe. Numéro 1 en Martinique. Énergie Antilles, numéro 1 sur les gifts. Numéro 1 sur les cadeaux. Numéro 1 sur la proximité avec les auditeurs. Numéro 1 sur les artistes. Numéro 1 sur les concerts. Numéro 1 sur la bonne humeur. C'est Énergie. Encore et toujours votre radio numéro 1. Énergie, it's music only.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourrichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster les histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Et oui, le livre du jour aujourd'hui, Dia sa thérapeute et Homme léopard. La plume de Fété Kimbiopi immortalise l'Afrique d'antan à travers son grand-père. Fété Kimbiopi est directrice générale de Sophifranc, organisme communautaire qui dessert la communauté immigrante dans la région de Niagara en Ontario. Dias Thérapeute et Homme Léopard, un livre qui fait le récit de la vie du grand-père de Fété Kimbiopi, originaire du Congo. Comme le titre l'indique, il était un homme léopard, c'est-à-dire membre d'une de ces confréries initiatiques qui existent partout en Afrique et au sein desquelles se transmettent des connaissances diverses, des pratiques magiques, pratiques très courantes à cette époque. Dias Thérapeute et Homme Léopard, les plus jeunes pourront avoir une idée de cette Afrique mystérieuse qui elle aussi change à grande vitesse. Dias Thérapeute et l'Homme Léopard, disponible sur Amazon, de Fété Kimbiopi, directrice générale de Sophifranc et femme très engagée au sein de la francophonie ontarienne. Vous retrouverez tous les liens sur popourishow.com.
Ce qu'on veut, c'est que les goûts se changent en étreinte, que le courage revienne là où règne la crainte, que les champs de mine redeviennent des champs de fleurs. Ne pas lui céder quand la haine nous effleure. Je vois bien depuis la scène que tout ça c'est possible. Croquer cette vie à fond sans se prendre pour cible. Allez viens qu'on échange des idées, pas des gifles. Et tant pis si ça choque la peur et le racisme. À leurs yeux, nous ne sommes après tout que des chiffres. Et devant les ordis, ils attendent qu'on s'étripe. C'est comme ça qu'ils agissent, c'est comme ça qu'ils divisent. Et c'est pour ça qu'ils visent sans cesse ces liens qui nous unissent, ouais. Était-ce un rêve ou bien un mirage? Tant de traits différents sur un même visage. Tant de gens répondant à l'appel du message. Tant d'être différents sur le même rivage. Ouais, était-ce un rêve ou bien un présage? Tant de cœurs souriant derrière le grillage. Tant de pieds à marcher dans le même sillage. Armés d'une rage à plus de mille gages. Ouais. Se voir et s'apprendre, voir tout ce qu'on est. À repousser les cendres, voir tout ce qu'on est. À vouloir se comprendre, voir tout ce qu'on est. Allez viens, allez viens, allez viens, viens, viens. À se voir et s'apprendre, voir tout ce qu'on est. À repousser les cendres, voir tout ce qu'on est. À vouloir se comprendre, voir tout ce qu'on est. Allez viens, allez viens, allez viens, viens, viens. Des fois je suis down, l'impression que tout tombe autour. Faire la course de ma vie avec une corde au cou. Et un jour, le temps a décimé les amis. J'ai soigné mon cœur en y entrant Mohamed Ali. Alors, merci, merci pour les heures où on a eu le sentiment de ne pas être seul. Debout sur la scène, face à des milliers de gens qui regardent. La pudeur et la crainte ont baissé la garde. Faut pas se cacher, on vient de la rue. On a culpabilisé de devenir si connu.
Les larmes ont coulé sur l'oreiller. Cette souffrance, faut croire que c'était le lourd prix à payer. Au noir fait l'horizon de chasser le vide, comme l'armée qui est venue pour écraser le cid. Infier les chemins de pénitence, aucune référence à la chanson pour Made in France. Et ceux qui décident de croire qu'on est eux, tout ce qu'on est, ils ignorent qu'on est si nombreux. S'ils savaient qu'on est bien ensemble, sans crier qu'on aime l'autre et partir en le laissant sans. Qu'on aime le monde en le ravageant et débarquer pour le sauver à la Jean Valjean. À se voir et s'apprendre, voit tout ce qu'on est. À repousser les cendres, voit tout ce qu'on est. À vouloir se comprendre, voit tout ce qu'on est. Allez viens, allez viens, allez viens, viens, viens. À se voir et s'apprendre, voit tout ce qu'on est. À repousser les cendres, voit tout ce qu'on est. À vouloir se comprendre, voit tout ce qu'on est. Allez viens, allez viens, allez viens, viens, viens. À se voir et s'apprendre, voit tout ce qu'on est. À repousser les cendres, voit tout ce qu'on est. À vouloir se comprendre, voit tout ce qu'on est. Allez viens, allez viens, allez viens, viens, viens.
Ça dépend de nous en fait. Le monde sera ce qu'on en fait. Ça dépend de nous en fait. Le monde sera ce qu'on en fait. Ça dépend de nous en fait. Le monde sera ce qu'on en fait. Ça dépend de nous en fait. Le monde sera ce qu'on en fait. Ça dépend de nous en fait. Le monde sera ce qu'on en fait. Ça dépend de nous en fait. Le monde sera ce qu'on en fait.
Et oui, nous entendons actuellement le DJ très très populaire en Afrique du Sud qui vient de remporter plusieurs prix aux États-Unis. Il était sur RFI pas très longtemps. Black Coffee. Que vous entendrez très prochainement sur cette antenne. Et oui, nous venons d'entendre Ayam qui est de retour après plusieurs années d'absence, groupe rap français. Il est parmi les nombreux artistes invités au Festival Printemps de Bourges. Ayam, pilier et pionnier avec NTM, rap français, dans les années 1990. Et le groupe s'appuie sur la culture urbaine américaine avec des textes pointus, projetant un réalisme sous un voile fin de culture orientale, des musiques funky, accrocheuses et une certaine autodérision. Avec des milliers de ventes d'albums à leur actif, Ayam est parmi les groupes français qui sont extrêmement appréciés par les francophones de la planète. Petit détour de présidentiel 2022. Oui, le débat de mercredi dernier entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen donne un léger avance à Emmanuel Macron. Le président sortant a été plus offensif, voire rude, lorsqu'il a pointé les faiblesses du programme de sa rivale, mais s'est autorisé des élans professoraux que d'aucuns jugeront hautains. Marine Le Pen est apparue en retrait, calme, mais parfois sur la défensive, manifestement en difficulté sur les sujets économiques. Et lorsque le président sortant lui a reproché d'être dépendante du pouvoir russe du fait de son prêt souscrit dans une banque russe. Alors que Marine Le Pen a assuré ne pas vouloir sortir de l'euro, Emmanuel Macron l'a accusé de vouloir quitter l'Union européenne, sans le dire, via une série de mesures contraires au traité. Vous êtes dans des raccourcis qui ne marchent pas. Et sur le voile et la laïcité, ce n'est pas combattre une religion. Avec moi, il n'y aura pas d'interdiction du foulard, de la kippa et des signes religieux. Ce que vous proposez est une trahison de l'esprit français. Vous allez créer la guerre civile, a insisté Emmanuel Macron au sujet de l'interdiction du voile proposée par sa rivale. Marine Le Pen se défend. La loi que je ferai voter ne concerne que les islamistes. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public, car je pense que c'est un uniforme imposé par les islamistes. Il faut libérer l'ensemble de ces femmes. Pour que cela, il faut l'interdire, le voile dans l'espace public. Après 2h30 de débat présidentiel, le président sortant Emmanuel Macron a été jugé nettement plus convaincant que Marine Le Pen. 59% des téléspectateurs le désignent comme vainqueur de la joute, contre 39% pour la candidate d'extrême droite, selon un sondage réalisé par Elab et BMF TV et L'Express France. Sur le front de l'éducation en Ontario, certaines familles francophones sont frustrées. Après l'incident d'une école francophone à Ottawa, une autre polémique enflamme la toile. Un nouveau livre proposé par le Conseil des écoles catholiques du centre-est de l'Ontario fait polémique. Le livre ne fait mention à aucun élève issu de la diversité. Eh oui, les parents francophones montent au créneau et réclament des explications. La Société d'Histoire de Toronto vous convie à sa prochaine conférence Toronto à la Grande Duchesse. Eh oui, Toronto et la Grande Duchesse. Olga Alexandrovna de Russie, présentée par Gilles Huot, conférencier, guide pour le Musée Royal de l'Ontario. C'est prévu pour le jeudi 21 avril à 19h et cet événement se déroulera en ligne. 36e Assemblée Générale Annuelle de la Société d'Histoire de Toronto, c'est prévu pour le lundi 9 mai 2022 de 18h30 au Campbell House Museum, 160 rue Queen West à Toronto. Tous les détails sur sht.ca, où vous retrouvez tous les détails sur popourichaud.com. Et à ne pas oublier, Sophie Franc, notre partenaire communautaire, eh oui, vous invite à ce camp d'été multi-art du 18 juillet au 29 juillet. Et eh oui, une bouffée d'air d'oxygène pour les enfants de 6 à 13 ans. Ce camp d'été multi-art sera animé par l'éducatrice artistique Justine Gaugois, avec plusieurs activités, notamment l'apprentissage d'instruments, de musique, l'écriture, la peinture, la danse, le conte. Hâtez-vous, les places sont limitées. Pour plus d'informations, vous aurez tous les renseignements sur notre site popourichaud.com. Et oui, Justine Gaugois sera bientôt à notre antenne. Et du 25 au 27 avril, c'est la grande fête à Toronto. En effet, les journées belges à Toronto reviennent. Ciné Franco a le plaisir de co-présenter Paris pieds nus, la comédie hilarante de Dominique Abel et Fiona Gordon au théâtre Spadina de l'Alliance française, 24 rue Spadina à Toronto. Pour plus de renseignements sur le film et les billets gratuits, contactez l'Alliance française de Toronto ou visitez le site web de cinefranco.com. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre émission pour recevoir les invitations et les dernières informations sur les rendez-vous exclusifs lors des célébrations de nos 35 ans. Devenez membre, abonnez-vous à notre émission en cliquant sur notre site web ziut.fm ou encore popourichaud.com. Et cliquez sur le bouton Donate si vous allez sur ciut.fm. Et n'oubliez pas de mentionner notre émission préférée popourichaud.com. Nous avons besoin de votre aide pour poursuivre notre mission. En dernière heure, la Tunisie se plonge dans le chaos. Pour le président, pas de dialogue avec ceux qui prétendent vouloir sauver le pays après avoir vidé ses caisses. Manifestation et violence au camp Le Vieux à l'île Maurice suite à la hausse du prix de l'essence. Le gouvernement est dans l'impasse. Le temps presse. Merci à DJ Devera, RFI France 24, à Sophie Francine et Franco, le Créfo et tous les bénévoles, les auditeurs, les amis de la radio. Merci pour vos messages très encourageants. Et oui, et je vous remercie beaucoup d'être des nôtres chaque dimanche. Et à ne pas oublier, madame, monsieur, aujourd'hui, rendez-vous sur France 24. Allez, c'est déjà au rendez-vous. Oui, ils sont déjà là pour les résultats de la présidentielle française. Ici Eric Kader, je vous souhaite un très bon dimanche, bonne semaine, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Je vous laisse avec Safi Diabaté featuring Oumou Sangaré. Et si on a le temps, DJ Charles revient avec son remix et les nouveautés Zouk. Allez, ciao, ciao, ciao!
solo.
C'est une teuf entre amis.
Et sans arrière-pensée.
Tout problème qu'elle nous caresse. Et puis quelques souris nous les décompresser. Nous finis pour nous prendre en pied. On est wainé et puis en bon DJ. Prends des petits coups pour nous aérer. Nous finis mettre du fait. On a soiré, on s'est déchaîné. C'est un bon moment. Tout pas là pour faire violence. Encore moins jouer les mamans. Nous venons pour nous prêter. Alors à nous les prédisciplinés. Tout pas là pour nous prêter. Si nous t'appelons, faut bien nous s'amolir. Nous qu'à conduire, laissons nous pas à l'abri. À mettre la vie nous en danger. La vie les autres aussi en danger. Et on va voir avec modération. Faut toujours voir avec modération. Et on va voir avec modération. Avec modération, toujours avec modération. Et on va voir avec modération. Faut toujours voir avec modération. Modération, toujours éviter, mais pas jamais gâter en cours. C'est différent, un petit peu. Oui, nous c'est différent, un petit soirée. C'est différent, un petit carrière. Yes! Nous cavini pour nous passer un bon moment. Nous pas là pour faire violence, encore moins jouer les mamans. Nous venons pour nous prendre des doux. Allez, nous venons juste pour nous baisser. Ok, nous, si nous capons, faut que nous s'amolir. Nous capons vie, personne pas à l'abri. Si nous capons, faut pas nous mettre la vie, personne en danger. Non, 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 non,
C'est ça mon besoin. Yo pa' la cruz, se mueve ni chavelle.